Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9NR3. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 2017 chez Fayard, puis disponible en édition de poche, Libéré est un essai féministe de la journaliste Titu Lecoq. À partir d'une expérience quotidienne très ordinaire, le désordre domestique et les vêtements laissés à ramasser. L'autrice examine la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes. Son sujet central est la charge mentale non seulement accomplir les tâches du foyer, mais aussi les anticiper, les organiser et se sentir responsable de leur bonne exécution. L'ouvrage relie cette répartition inégale du travail domestique à des structures plus larges, notamment l'éducation, la parentalité, le travail rémunéré, la sécurité dans l'espace public et les représentations féminines sur les réseaux sociaux. Il ne se limite donc pas à conseiller une meilleure organisation familiale. Il interroge les normes qui rendent spontanément les femmes comptables du soin des autres. Documenté et nourri d'humour, le livre entend montrer que l'égalité se mesure aussi dans les gestes apparemment mineurs de la vie domestique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la chaussette sale comme révélateur de la division du travail domestique. Le panier de linge sale fournit à Titu Lecoq un point de départ concret pour rendre visible une inégalité souvent banalisée. Le problème n'est pas uniquement de savoir qui exécute une tâche isolée, comme ramasser un vêtement ou lancer une machine. Il est de comprendre pourquoi une personne remarque le désordre, estime qu'il doit être traité, choisit le moment de l'action et supporte le malaise si rien n'est fait. Dans de nombreux foyers hétérosexuels, cette personne est encore la femme. L'essai refuse ainsi de réduire les inégalités à une addition de corvées mesurables. Il met en lumière une responsabilité diffuse, façonnée par des habitudes et par l'idée que le bien-être familial relève naturellement du féminin. Cette approche évite l'explication confortable selon laquelle il suffirait que chacun aide davantage. Aider suppose qu'une autre personne demeure responsable de l'ensemble. L'enjeu est plutôt le partage réel de l'initiative, de la décision et de l'exécution. En traitant un objet trivial comme un indice social, Lecoq relie l'intimité du foyer à l'histoire de la division sexuée du travail. Le quotidien n'apparaît plus comme une affaire privée sans portée politique, mais comme un lieu où s'apprennent, se répètent et peuvent se contester les rapports de genre. Deuxièmement, la charge mentale dépasse le temps passé à faire le ménage, l'un des apports essentiels de Libéré. Consiste à distinguer le travail visible de la gestion invisible. Faire les courses, nettoyer ou s'occuper des enfants prend du temps. Mais ces actes reposent aussi sur une planification continue, prévoir les besoins, retenir les échéances, coordonner les activités et éviter les oublis. Cette vigilance est difficile à comptabiliser, car elle ne commence ni ne s'arrête clairement. Elle peut se poursuivre pendant le travail rémunéré, les trajets ou les temps supposés de repos. Lecoq associe cette charge à la double journée des femmes, qui restent fréquemment investis dans le foyer après leur activité professionnelle. Le livre souligne ainsi qu'une égalité formelle d'accès à l'emploi ne garantit pas une égalité des conditions de vie. Si l'une des personnes porte l'administration domestique, ses disponibilités, son repos et ses possibilités professionnelles sont affectées. La charge mentale n'est pas présentée comme une faiblesse individuelle ou une incapacité à lâcher prise. Elle est la conséquence d'une distribution inégale des responsabilités et d'exigences sociales persistantes envers les mères et les compagnes. Reconnaître ce mécanisme permet de déplacer la discussion, il ne s'agit plus de reprocher à une femme son agacement, mais d'examiner l'organisation concrète du foyer et les attentes qui la soutiennent. Troisièmement, l'éducation et la parentalité prolongent les normes de genre, Lecoq inscrit les inégalités domestiques dans une continuité éducative et historique. Les compétences ménagères et le souci d'autrui ne sont pas simplement des dispositions naturelles, ils sont transmis, valorisés ou attendus différemment selon le sexe. L'ouvrage évoque notamment l'histoire de l'enseignement ménager et de la division sexuelle du travail pour rappeler que l'organisation actuelle des foyers a des racines institutionnelles et culturelles. Cette perspective est importante, car elle empêche de considérer les écarts observés entre adultes comme de simples préférences personnelles. Les filles ont longtemps été davantage préparées à prendre soin des autres et à maintenir l'ordre domestique, tandis que les garçons ont plus facilement été dispensés de cette responsabilité. La parentalité peut ensuite amplifier ces écarts. L'arrivée d'enfants augmente le volume de tâches, mais aussi les besoins de coordination et de disponibilité. Dans ce contexte, les normes qui associent la maternité à la compétence et au dévouement peuvent conduire les femmes à assumer une position de pilote du foyer, même lorsqu'elles travaillent également hors de la maison. Le livre invite donc à examiner les pratiques ordinaires de transmission qui apprend aux enfants à ranger, qui répond aux besoins quotidiens, qui est jugé responsable lorsque l'organisation échoue. L'égalité suppose de partager les gestes, mais aussi l'apprentissage de l'autonomie et de la responsabilité. Quatrièmement, de la maison à la rue, une liberté de mouvement inégalement distribuée, libérée, ne cantonne pas son analyse à la sphère privée. Lecoq avance que la féminisation du soin domestique a pour envers un espace public encore largement organisé autour des hommes. Les femmes ne disposent pas toujours de leur temps, de leur déplacement et de leur présence dans la rue avec la même liberté. Elles peuvent adapter leur tenue au transport, anticiper les risques ou éviter d'être seules à certains moments. Le livre ne présente pas ces précautions comme des choix individuels sans conséquences, mais comme les effets concrets d'un environnement où la sécurité et la légitimité d'occuper l'espace restent inégalement répartis. Ce rapprochement entre le foyer et la rue élargit la notion d'égalité. Une personne surchargée par les tâches de care et tenue de gérer sa sécurité ne bénéficie pas des mêmes marges de disponibilité qu'une personne qui en est moins préoccupée. L'essai montre également que les contraintes matérielles et symboliques se renforcent, le travail domestique limite le temps, tandis que l'insécurité limite la mobilité. Cette articulation évite de traiter séparément les problèmes de couple, les normes de féminité et le harcèlement. Tous participent à une distribution différenciée des droits pratiques à l'insouciance, au repos et à la circulation. L'égalité effective exige donc de regarder les conditions quotidiennes qui déterminent qui peut sortir, travailler ou simplement disposer de son temps sans devoir tout prévoir. En dernier lieu, les images de féminité sur Instagram et la pression de la perfection, l'essai aborde aussi les représentations sexistes diffusées sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Ce déplacement vers le numérique complète l'analyse de la charge mentale, les injonctions ne viennent pas seulement de la famille ou des institutions. Elles circulent aussi sous la forme d'images séduisantes de femmes minces, soignées, maternelles, organisées et disponibles. Ces représentations peuvent donner l'apparence d'un choix libre ou d'un simple loisir esthétique. Pourtant, lorsqu'elles fixent continuellement les critères d'une féminité réussie, elles contribuent à maintenir une pression particulière sur les femmes. Il ne s'agit pas de soutenir que toute publication ou tout usage des réseaux sociaux est nécessairement sexiste. La question posée par Lecoq est celle des modèles dominants et de leur effet cumulatif. Une femme déjà chargée du foyer peut être sommée de rendre cette charge invisible en donnant à voir une maison maîtrisée, des enfants épanouis et une apparence irréprochable. Le contraste entre les exigences de perfection et la matérialité des tâches, de la fatigue ou du désordre nourrit alors la culpabilité. En intégrant ces images à son propos, le livre montre que la répartition des corvées n'est pas qu'une question logistique. Elle dépend aussi de récits sociaux qui assignent aux femmes le rôle de gardienne du confort, de l'harmonie et de la présentation du foyer. Les contester implique de rendre visible leur coût et leur caractère construit. En conclusion, Libérée s'adresse en premier lieu aux personnes qui souhaitent comprendre pourquoi l'égalité proclamée se heurte encore à des déséquilibres persistants dans les foyers. Il sera particulièrement utile aux couples, aux parents, aux jeunes adultes et aux lecteurs qui cherchent un cadre pour nommer la charge mentale sans la réduire à une querelle domestique. Les hommes peuvent y trouver une invitation à examiner non seulement leur participation visible, mais aussi leur prise d'initiative et leur part de responsabilité dans l'organisation quotidienne. Les femmes peuvent y reconnaître des expériences souvent minimisées et les replacer dans une histoire sociale plutôt que dans une défaillance personnelle. Le bénéfice pratique du livre réside moins dans une méthode de rangement que dans une manière plus précise de poser les problèmes qui remarquent, décident, planifient, exécutent et assument les conséquences. Son bénéfice intellectuel est d'articuler ces questions avec la parentalité, l'éducation, l'espace public et les images numériques de la féminité. Par rapport à des essais centrés exclusivement sur le couple ou sur des prescriptions d'organisation, l'ouvrage se distingue par son va et vient entre une scène domestique banale, l'enquête socio-historique et une écriture accessible, volontiers ironique. Cette combinaison donne une portée politique à des situations familières sans les rendre abstraites. Le livre demeure ainsi une bonne porte d'entrée pour réfléchir aux rapports de genre à partir de leurs manifestations les plus ordinaires et les plus concrètes. Si vous souhaitez soutenir Titu Lecoq, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.